Chers auditeurs, bonsoir. Il est 18h passé de 12 minutes. Vous écoutez Radio Campus Tours, la radio étudiante sur le 99.5 FM. Et ce soir, dans Sortez, nous allons parler santé. Nous avons reçu les étudiants relais santé du service de santé universitaire mardi. Et nous recevons ce soir Édouard Degermais. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le 10e adjoint de la mairie de Tours et vos missions, puisque vous les avez acceptées, c'est santé, hygiène, personnes âgées, handicap. Vous êtes également médecin généraliste à Notre-Dame-d'Oé. Vous êtes à l'UMP depuis 2008, me semble-t-il, et vous avez même fait vos études de médecine à Tours. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir.
Alors tout d'abord, est-ce que vous voulez nous expliquer en quoi ça consiste d'être adjoint à la mairie de Tours et de travailler sur autour des questions de santé?
Ouais, alors juste un petit point de précision dans ma biographie que vous avez déroulée. Là, j'ai mis plusieurs vies des Tan Hunt, Mission Impossible presque. Je ne suis plus à l'UMP depuis déjà 3 ans. Voilà, c'est une petite précision comme ça. En passant, tout le reste est tout à fait juste. Effectivement, ma vie médecin généraliste.
J'ai donné la date de début, mais pas la date de fin.
Bon, et du coup voilà, effectivement depuis 2014, donc en charge des questions de santé et de handicap à la ville de Tours. Nous sommes à Tours un maire, une vingtaine d'adjoints. L'ordre du tableau n'a pas une très très grande importance, et c'est pas pour préciser quelle est la mission la plus importante ou pas, c'est qu'il faut les mettre dans un sens, donc voilà, ça se présente comme ça. Et puis donc une vingtaine de conseillers supplémentaires par rapport aux adjoints dans la majorité. Et puis les 15 derniers élus sont des élus d'opposition. Et donc dans les missions qu'on porte, c'est la préparation d'un certain nombre de dossiers, d'actions, de suivi de territoire, de suivi d'associations pour la ville de Tours, bien sûr. Alors quand on parle de santé, en général, on a une vision un petit peu plus large que ça, parce que finalement le bassin de population qui va bien pour mener des missions cohérentes, c'est plutôt l'échelle métropolitaine, parfois un petit peu plus large. Donc notre job, c'est d'aller à la rencontre de ceux qui veulent faire des choses, de trouver le moyen de les soutenir, de corriger quand il y a besoin, d'agrémenter certaines fois les projets, et puis de l'autre côté, de construire les nôtres, nos propres projets. On va en évoquer quelques-uns ce soir, je crois.
Mm-hmm. Alors peut-être, est-ce que vous voulez expliquer déjà qu'est-ce que vous avez mis en place depuis que vous êtes à ce poste, depuis que vous avez ces responsabilités à la mairie de Tours?
Alors sur les questions de santé, ce qu'il faut avoir bien en tête pour ce qui concerne les communes, c'est qu'il n'y a pas de mission obligatoire, c'est-à-dire que l'État ne nous oblige pas à porter des missions en direction de la santé. Donc quand une collectivité veut s'y intéresser, il faut qu'elle définisse les axes qui peuvent être les siens. Nous, notre réflexion, c'était de nous dire qu'il y avait deux grands axes qui devaient être explorés. C'était d'une part tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, donc c'est-à-dire en gros pour schématiser l'accès aux soins, et puis d'autre part tout ce qui concerne la promotion de la santé, l'éducation à la santé, comment faire pour que faire passer les grands messages de santé publique, pour que tout un chacun puisse se saisir de ce qui existe, de ce qui se fait et des bons gestes du quotidien pour aller bien dans un premier temps, et puis le cas échéant aller mieux si on est déjà malade.
Vaste programme,
n'est-ce pas?
Et alors, je crois que... Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le désamiantage des bâtiments à risque sur la ville de Tours? Combien il y en a? Et qu'est-ce qu'on peut y faire? J'imagine que ça cause des soucis...
Alors effectivement, c'est une problématique complexe qui est gérée par un de mes collègues adjoints qui est élu au bâtiment. Alors pourquoi? Parce que c'est d'abord une problématique technique, effectivement, c'est une problématique de santé publique importante, mais qui trouve aujourd'hui un cadre réglementaire qui est extrêmement figé, et tant mieux d'ailleurs, avec des règles pour attaquer un certain nombre de travaux dans les bâtiments dans lesquels il y a eu des diagnostics amiantes. Aujourd'hui, ça concerne énormément de bâtiments, je ne vais pas vous donner des chiffres. Les bâtiments de la ville de Tours, c'est 350 ERP, donc établissements recevant du public, et dans tous ces bâtiments il y en a finalement assez peu qui sont totalement exempts de toute trace d'amiante. Alors quand on a dit ça, il ne faut pas non plus être alarmiste, parce que un certain nombre de situations d'amiante sont des situations où les fibres qui sont toxiques, vous savez, ne sont pas accessibles directement, la population n'est pas en contact, et puis un certain nombre de travaux qui sont faits permettent d'isoler les secteurs en question. Quoi qu'il en soit, il y a un certain nombre de bâtiments, en pensant en particulier au gymnase par exemple, où il y a des travaux qui doivent être faits. Ceux-là sont faits au fil de l'eau en fonction de l'arrivée des rénovations. Voilà, c'est une vraie problématique de santé publique. C'est des coûts extrêmement importants pour la ville de Tours. Par exemple, là, on va engager un certain nombre de travaux dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments. Et ces travaux, on sait qu'on va toucher à des matériaux amiantés, et du coup ça vient impacter les budgets qui sont alloués pour ces travaux-là. Et ben, ma foi, il faut non seulement raisonner les budgets, mais il faut aussi raisonner le séquençage des travaux pour faire appel aux bonnes entreprises. Donc c'est un énorme chantier qui va nous prendre encore de nombreuses années, mais qui est fait dans un cadre qui suit la réglementation, pour éviter toute exposition à la fois des personnes qui font les travaux et puis bien sûr des personnes qui fréquentent les bâtiments concernés.
Et alors, ils sont où à peu près ces bâtiments ? C'est quoi ? Ça peut être quoi comme bâtiment ? Alors l'idée, c'est pas que les gens paniquent en disant « au secours,
non,
je suis exposé ». Mais...
bien sûr, mais il y a eu des questions autour de la patinoire, par exemple, pour vous donner un des bâtiments qui est pris en charge. Voilà, c'est... alors moi, j'ai pas la liste, hein, honnêtement, de ceux qui sont... de ceux qui sont concernés dans un avenir proche par des travaux. C'est pas de mes délégations. Mais en tout cas, oui, sachez que c'est... que c'est suivi de très près et que les services sont extrêmement vigilants sur ces questions-là, ne serait-ce que parce que la réglementation nous l'impose, et puis que d'un point de vue de la sécurité à la fois des agents et des usagers, c'est une problématique majeure.
Vous voulez rappeler à nos auditeurs quelles sont les conséquences d'une exposition à l'amiante ?
Oui, alors je vais vous les donner en tant que médecin généraliste, pas en tant que pneumologue spécialiste averti. Mais alors il faut distinguer dans l'amiante de l'amiante qui serait en bloc, qui bouge pas, qui pose pas de problème, qui n'est pas dégradé. Le risque n'est pas nul, mais il n'est pas important. En revanche, ce qui est très embêtant, c'est l'exposition aux poussières d'amiante avec certains types de fibres qui sont particulièrement agressifs, en particulier pour la plèvre. La plèvre, c'est une enveloppe qui fait tout le tour du poumon, qui contient les poumons, et on sait que l'amiante peut provoquer des cancers au niveau de la plèvre qui, s'ils ne sont pas détectés à temps, peuvent s'avérer extrêmement graves. Et on sait qu'en particulier dans les personnels qui sont exposés, il y a maintenant des suivis très réguliers de dépistage qui sont proposés avec des suivis pneumologiques spécialisés, des scanners parfois quand c'est nécessaire.
Et alors, puisqu'on parle de, comment dire, de l'arbre respiratoire, mmh. Je crois qu'il y a une autre question sur laquelle j'aimerais vous interroger, c'était, si on peut dire, c'était sur la qualité de l'air. En fait,
ouais.
Voilà, je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous aviez évoqué peut-être l'idée de... où ça en est, cette idée de dispositif pour prévenir les insuffisants respiratoires ?
Oui, alors c'est effectivement un sujet majeur de santé publique. Alors on sait aujourd'hui qu'il y a plein de facteurs de pollution de l'air qui peuvent avoir des conséquences sur la santé. Les plus importantes particules qui concernent l'impact respiratoire, c'est essentiellement ce qu'on appelle les particules fines. Donc, alors on parlait beaucoup du monoxyde d'azote dans le temps, mais on n'est plus sur ces données-là, ou sur le dioxyde de carbone. On sait qu'aujourd'hui, les particules qui ont le plus d'impact, ce sont ces fameuses microparticules qui sont flottantes dans l'air et qui ont un impact important sur les personnes déjà fragiles. Alors, ça peut altérer un petit peu la respiration de personnes bien importante quand il y a des pics intenses qui font l'objet des alertes sanitaires habituelles, mais ces fameuses particules chez les personnes qui ont un asthme particulièrement un asthme important, chez les femmes enceintes, chez les personnes qui ont des insuffisances respiratoires comme les bronchites chroniques, des personnes qui ont trop fumé, chez les personnes qui ont des insuffisances cardiaques, ouais, chez toutes ces personnes-là, on en a un risque plus élevé de décompensation cardio-respiratoire, donc de difficultés supplémentaires qui peuvent parfois aller jusqu'à l'hospitalisation, parfois même la réanimation pendant plusieurs jours pour les situations les plus critiques. Et chez ces personnes-là, on sait que le seuil de sensibilité est inférieur à celui de la population générale et en particulier inférieur au seuil d'alerte réglementaire. Et donc l'interrogation qu'on avait avec ce dispositif que vous évoquez, c'est de savoir comment il serait possible d'alerter en amont des pics de pollution ou des jours de pollution au-delà du seuil dont on sait qu'il est délétère pour ces personnes-là, comment faire pour les alerter? Alors, il y a eu un gros travail de fait, en particulier par l'Espace du Souffle, qui est une structure qui fait de la réhabilitation respiratoire, donc des kinésithérapeutes spécialisés dans le suivi de patients qui souffrent de pathologies respiratoires. Ce dispositif est lui-même piloté par les pneumologues à la fois du CHU, le professeur Sylvain Marchand-Adam, et puis des pneumologues de ville, donc de manière concertée. Et ils ont tout un volet de développement de projets de recherche. Et donc, parmi ces projets de recherche, ils ont relevé le gant de ce dispositif-là, qui est un dispositif très compliqué à mettre en place, parce qu'il faut qu'il y ait une validation des pneumologues, il faut qu'il y ait une validation de toutes les commissions qui vont bien. Et à côté de ça, ça fait 5 ans qu'on en parle, et les financements ne sont pas là pour le développer, c'est-à-dire que l'application est prête, mais ceux qui pourraient s'en saisir au niveau des financeurs n'ont pas encore activé, n'ont pas appuyé sur le bouton, donc c'est un petit peu dommage pour tout le monde. On baisse pas les bras, cela dit, on continue à regarder, à pister, à essayer de répondre à des appels à projets. Pour l'instant, on en est là. Voilà, sur le papier, on est prêt. Dans les financements, on ne l'est pas encore.
Et alors, qui pourrait être le mécène rêvé pour...
Qui veut Non, mais de façon assez naturelle, on pense... aux grands financeurs objectifs de la santé, qui pourrait être l'Agence régionale de santé, qui pour l'instant n'a pas donné d'avis favorable, mais c'est un budget conséquent, donc voilà, il y a des priorités qui ont été définies par les politiques de l'ARS, ça dépend pas de nous, ça. Et puis ça pourrait être n'importe quel mécène qui s'intéresse à ces questions-là. On a sollicité des grandes entreprises, on a sollicité des fonds de dotation, en particulier certains fonds de dotation de regroupement de mutuelles qui se sont montrés intéressés, qui veulent plus de détails, ce qu'on peut comprendre aussi, parce qu'encore une fois, on parle de budget autour de 300 000 euros pour développer une application comme ça. Voilà, donc c'est pas des petits budgets, c'est pas des petites conséquences non plus sur la santé des gens. Donc on espère qu'à la fin, toutes ces choses-là vont arriver à se rencontrer, à se mettre d'accord. Bon, on baisse pas les bras, on préfère que ça se fasse vite, mais ça se fait pas vite, on n'est pas à quelques semaines près et on va continuer à travailler.
Mais application, ça veut dire un contenu compatible avec un smartphone ?
Oui, on sait qu'on ne touchera pas tout le monde. Un outil qui soit performant et rapide, parce que c'est ce qu'on veut en fait, si vous voulez, le pic de pollution, ou en tout cas le niveau de pollution d'une journée peut être prédit la veille. Donc la donnée est disponible à partir de 17h. La veille, ça c'est les données de l'IGER, vous connaissez cette structure qui surveille la qualité de l'air en région centre, et donc les données de l'IGER pour le lendemain sont disponibles à 17h. Ça veut dire qu'une application bien montée, elle prend la donnée à la source à 17h, elle la pousse en direction des personnes concernées. Si vous le faites par médias interposés, vous avez l'information le jour même. C'est déjà trop tard pour prendre les mesures qui permettent d'adapter ses habitudes de vie au niveau de pollution. Une personne insuffisante respiratoire, ce qu'elle va devoir faire, c'est 1, moins d'activité, alors ça elle peut le faire le jour même, mais encore faut-il parfois le programmer, un peu moins d'activité, 2, des mesures d'adaptation de son traitement qu'il faut faire dès le matin même. Et donc si elle a l'information trop tard, ben, c'est pas bon. Donc il faut l'avoir le plus vite possible, et le média le plus rapide, ça reste la dématérialisation, les smartphones en particulier. Alors on peut imaginer que le dispositif pourrait fonctionner peut-être un peu moins performant par mail, mais on reste sur globalement le même niveau d'aptitude aujourd'hui à l'usage des nouvelles technologies. Donc la cible est à peu près la même, et... peut-être qu'on ne touchera pas tout le monde, mais enfin, il est fort à penser que dans les 10-15 prochaines années, à peu près tout le monde se sera mis à ces nouvelles technologies, en tout cas l'immense majorité de la population.
Bah, c'est à souhaiter, parce que c'est vrai que concrètement, je pense qu'aujourd'hui, parmi les personnes qui souffrent de ces troubles, il y a aussi beaucoup de personnes âgées.
Oui.
Et donc, je ne suis pas sûre que, même s'il y a quand même des personnes âgées qui maîtrisent tout à fait... parfois même mieux que les jeunes, les outils numériques. Mais
je vais vous surprendre alors. J'ai dans ma patientèle, j'ai une patientèle qui, moi, est très diversifiée avec beaucoup de personnes âgées. Mmh. Alors, on ne parle évidemment pas des personnes âgées institutionnalisées. Là, le cadre est très particulier. Mais des personnes âgées à la maison, moi, j'en ai quelques-unes, même plutôt pas mal, qui ont leur tablette et qui Skype avec leurs petits-enfants très régulièrement. Donc, vous voyez, les nouvelles technos, finalement, elles sont mises aussi à la portée de chacun. Et c'est tout l'intérêt des développeurs. Hein. Enfin, faut être réaliste, d'avoir des outils qui sont utilisables par le plus grand nombre. Et objectivement, ça marche plutôt bien. Donc, il y a toute une part de pédagogie. Mais là aussi, vous avez des ateliers, vous en savez quelque chose, des étudiants qui se mettent à la disposition de personnes âgées dans le cadre de certaines associations. Et puis, qui font ce boulot-là de mettre à niveau, si je puis dire, nos anciens pour leur permettre d'avoir accès à ces nouvelles technologies. Donc, ce sera jamais 100%, on est d'accord, mais le but du jeu étant de créer l'outil, après, s'en saisit qui peut, et puis on espère que la démocratie numérique permettra d'atteindre 100% de la cible.
Alors oui, parce qu'évidemment, on pense en premier lieu, à tort ou à raison, aux personnes les plus âgées, mais il y a aussi les personnes les plus précaires, soit parce qu'elles ne maîtrisent pas le français correctement, soit parce qu'elles n'ont pas l'équipement, en fait, elles n'ont pas le moyen d'avoir ça. Ouais. Donc là, c'est un problème aussi.
Ça restera une dent creuse à aller combler. On est d'accord, encore une fois, on n'a pas la prétention d'avoir une solution universelle. Dans notre domaine, je m'occupe aussi de l'accessibilité, mais là aussi, on sait très bien que l'accessibilité universelle, c'est un objectif. Mais est-ce qu'il peut être pleinement atteint ?
Mystère.
Voilà. Mystère, pas totalement. On connaît tous la réponse. Même si on vise le mieux, parfois, c'est pas possible.
Je propose de faire une première pause musicale dans cette émission et nous allons écouter un groupe local. Nous allons écouter Dio Garcia. Restez à l'écoute de notre émission, vous écoutez Radio Campus Tour. Thank you. Garcia sur Radio Campus Tours, vous écoutez Sortez et nous parlons santé, accès aux soins avec Édouard de Germay. Ça, vous êtes adjoint à la mairie de Tours, je m'en mêle dans mes notes, tant pis pour moi. Alors, nous parlions des amiantages, qualité de l'air et dans l'idée de rendre accessible l'information sur la santé, il existe un dispositif voilà, dont j'aimerais parler, c'est les jeudis de la santé. Alors, qu'est-ce que c'est ces jeudis de la santé ?
Alors, c'est d'abord l'histoire d'un partenariat riche avec le centre hospitalo-universitaire de Tours, la faculté de médecine et donc l'université, et puis la mutualité française. Cette aventure-là a commencé il y a maintenant un peu plus de 4 ans, avec une idée assez simple, c'est qu'on a à Tours une ressource incroyable que sont nos hospitalo-universitaires, c'est-à-dire tous les médecins qui sont à la fois praticiens du CHU et enseignants à la faculté de médecine, et qui ont de très hautes compétences pédagogiques, c'est ce qu'on attend d'eux à la faculté. Et puis de l'autre côté, on a des citoyens qui sont en grande demande et en tout cas qui ont un grand appétit pour toutes les questions qui concernent leur santé. On le voit bien avec les immenses réussites comme celles qu'on connaît tous de Michel Simès par exemple, de ses émissions, de ses déplacements. Donc voilà, l'appétit existe. Dans les missions qu'on s'était dit, je vous l'ai dit en début d'émission, on pense que la ville peut porter et supporter des initiatives de pédagogie en direction du grand public sur les thématiques de santé. Et donc, assez naturellement, on s'est mis d'accord sur un format de conférence-débat, donc qui ont lieu 6 fois par an. Elles sont le jeudi, comme leur nom l'indique, à l'hôtel de ville, donc dans la grande salle de l'hôtel de ville, avec à chaque fois une grande thématique de santé publique. Alors on a abordé tour à tour la mémoire, on a abordé les adolescents, les addictions, les vaccins, l'alimentation, dernièrement les personnalités difficiles. Voilà, c'est des thématiques qui peuvent concerner tout le monde et qui permettent voilà, de faire une bonne approche à la fois sur les grands schémas théoriques du fonctionnement du corps humain, de ce qui peut le rendre malade, de la manière de se soigner. Et puis, donc ça, c'est pendant 45 minutes un exposé d'un expert. Et puis, pendant les 45 minutes qui suivent, il y a un échange donc, de questions non préparées. Et d'ailleurs, les conférenciers nous disent régulièrement que cet instant est le plus riche en termes de pédagogie, parce qu'il faut répondre directement aux inquiétudes des gens qui sont là, qui ont des questions très pratiques et qui permettent dans l'autre sens, de donner des conseils pour la vie du quotidien.
C'est peut-être parfois un peu déroutant comme question, parce que les gens posent des questions parfois, qui aussi, enfin pas tous, mais j'imagine que ça peut-être que vous le voyez aussi dans votre travail de médecin généraliste, des fois les gens posent des questions qui peuvent sembler naïves, mais en fait c'est qu'ils n'ont pas compris quelque chose et que c'est important évidemment qu'ils se sentent à l'aise, capables de poser toutes les questions qu'ils veulent et surtout pas dénigrer ou quelque chose comme
absolument.
Ça.
Alors dans l'alcôve du cabinet médical, en quelque sorte, les choses sont toujours un peu plus simples en matière en tout cas de questions directes. Un des grands principes de la médecine, c'est que si notre patient ne comprend pas soit la portée du diagnostic, soit l'intérêt du traitement, eh bien, il y a peu de chances qu'il adhère et par conséquent peu de chances qu'il se soigne. Donc dans l'intérêt de notre patient, il est évident qu'il faut qu'on fasse un effort pédagogique particulier pour être sûr qu'il a compris. Ça nécessite parfois de faire reformuler. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que j'ai dit ? Alors, même si ça se passe pas exactement comme ça hein, dans la pratique, c'est pas l'interro surprise à la fin de la consultation. Mais voilà, il y a des choses qui doivent se passer comme ça, qui doivent exister, et encore une fois, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc, les questions qui sont posées effectivement pendant ces conférences sont rarement des questions très personnelles, même s'il y a un fond d'interrogation personnelle. Mais assez souvent, le conférencier arrive à trouver le moyen de faire en sorte que cette question posée la réponse en tout cas à la question posée bénéficie à tout le monde. Donc d'un cas particulier, arriver à une réponse plus générale. Pour autant, effectivement, il y a parfois des questions extrêmement déstabilisantes et vous vous doutez bien quand on aborde par exemple un sujet comme celui des vaccins, on ne s'attend pas qu'à des questions faciles. Voilà, donc toutes les questions sont abordables et toutes les réponses sont données. y compris sur les vaccins.
Mais d'ailleurs, cette idée comment dire, de pédagogie, d'explication des traitements et tout, c'est de toute façon une obligation pour des professionnels de santé. Refuser de faire ce genre de choses, de participer, ça, est-ce que ça n'irait pas contre le métier en lui-même?
C'est-à-dire refuser de participer, de refuser de tenir une conférence, c'est ça que vous vouliez me dire?
Non, pas forcément une conférence.
Là, pour l'instant, ça ne s'est pas présenté, honnêtement.
Non, mais de donner toutes les explications que demande
un patient.
Un patient.
Oui. Alors, bien sûr que c'est une obligation d'abord médico-légale, déontologique aussi bien sûr, mais sur l'autre versant, il faut bien voir que tout le monde n'a pas les mêmes capacités pédagogiques. Voilà, donc je sais que particulièrement à l'université, à la faculté de médecine de Tours, il y a une attention particulière à ces questions-là, de savoir si les étudiants dans leur cursus ont une capacité d'apprentissage autour de la pédagogie, de la capacité à expliquer les choses. Il y a des ateliers qui sont montés, je crois. Mes études remontent un petit peu loin maintenant, mais voilà, je sais qu'il y a un vrai effort dans ce sens-là pour faire en sorte que les futurs médecins soient en capacité de présenter les choses de la manière la plus claire possible. Et d'être de plus en plus capable d'écouter leurs patients pour savoir détecter les questions non posées aussi, parce que ça existe ça. Votre patient qui tourne un petit peu autour du pot, vous voyez qu'il y a une question qui vient pas, si vous savez pas la repérer, si vous savez pas l'identifier, et ben c'est pareil, vous potentiellement vous passez à côté de quelque chose.
Alors c'est vrai que comme de ce que vous dites, le don de la pédagogie n'est pas inné, mais il s'apprend.
Il s'apprend.
Et l'empathie aussi, peut-être.
Ah, ça, c'est plus difficile.
Ça,
avant de répondre à cette question-là, il faut que vous me disiez d'où vient l'empathie. Est-ce qu'il faut vous-même vous ayez souffert pour avoir de l'empathie?
Je ne sais pas.
Je pense que c'est une qualité humaine qui peut-être s'apprend un petit peu moins bien, ou en tout cas, si elle vient plus probablement avec l'expérience, si vous acceptez de ne pas vous endurcir.
Est-ce que c'est des questions qui se posent dans la formation des médecins ou qui vous semblent importantes?
Dans l'approche, en tout cas, je pense que l'enseignement des sciences humaines fait partie des moyens d'y répondre. Mais ça reste tellement personnel. Autant la pédagogie, il y a des méthodes qui peuvent s'apprendre, mais la pédagogie sans une certaine part de qualité intrinsèque, sans dire que les autres n'ont pas de qualité, c'est pas ça. Mais vous voyez, c'est comme tout, le monde n'est pas fait pour être enseignant.
Et pourtant. Bon, et alors, qu'est-ce qui est mis en place d'ailleurs dans les études médicales en fait sciences humaines pour essayer de créer peut-être pas cette fameuse empathie, mais au moins une considération peut-être plus accrue de l'autre?
Alors, pour ça, je vous invite plus à faire venir des étudiants de la faculté de médecine. Mais quoi qu'il en soit, ce que je sais, moi, de l'état d'esprit de la faculté, des enseignants qui sont responsables des programmes pédagogiques, c'est que l'attention aux patients est vraiment au cœur du sujet. On n'est pas dans une discipline technique. On est dans une discipline qui est un art scientifique. Si vous acceptez ce terme-là. C'est-à-dire que la dimension scientifique est juste évidente. Voilà, bon, on y est contraint et tant mieux. Voilà, les progrès technologiques font que, l'avancée de la connaissance médicale font que, mais il y a toute une partie qui reste du domaine de la relation interpersonnelle entre le patient et son médecin. Et ça se construit comme toute relation humaine. Si la confiance ne passe pas, les choses sont plus compliquées. Et vous pouvez avoir un médecin aussi empathique que vous voulez, aussi pédagogue que vous voulez. Si la confiance n'est pas là, le reste ne suit pas. Vous voyez, donc les choses ne sont pas que scientifiques en médecine, et d'ailleurs fort heureusement.
C'est vrai qu'on entend souvent dire, en plus, que la médecine n'est pas une science exacte.
Non, c'est un art scientifique.
Voilà. Bon.
Absolument. Voilà, donc pour revenir sur les jeudis de la santé, simplement.
C'est vrai, on digresse un peu.
Oui, mais c'est intéressant. mais vous allez voir que c'est pas sans lien. C'est que le succès grandissant de ces expériences-là, de ces jeudis, nous montre qu'il y a un appétit fort qui n'est pas une simple envie d'instruction. C'est que je pense en tout cas que nos concitoyens, mais nous tous que nous sommes, nous avons envie de nous saisir de cette question, d'en faire un objet, enfin une compétence personnelle, parce que c'est notre corps et que notre corps répond à un certain nombre de contraintes qui nous échappent. Et l'avoir à la maîtrise de ces contraintes-là, c'est aussi améliorer non pas simplement sa santé, mais son bien-être. Voilà, et je pense qu'il y a, ça répond largement à ces questions-là, avec un public touché qui est très très large, puisque malgré l'horaire pas toujours très simple de 18h30-20h, eh bien nous avons la totalité de la population qui est représentée dans ces conférences, autant de grands adolescents, d'étudiants, de jeunes actifs, de seniors et voire même de personnes très âgées, parfois qui se déplacent, alors évidemment selon les thématiques, mais on a vraiment vraiment tout le monde qui vient.
À tel point que vous avez même refusé du monde la dernière session, c'était
oui.
Sur les
personnalités. Alors, il y en a qui se réjouissent, c'est la rançon du succès, il y en a qui s'en réjouissent. Bon, nous, on était surtout un peu mal à l'aise de devoir fermer la porte devant 150 personnes, alors qu'il y en avait déjà 750 à l'intérieur. Malgré un certain nombre de précautions qu'on avait prises, on en est vraiment désolé. Et puis doublement désolé, parce que anticipant cette affluence particulière pour le dernier jeudi, là, qui était la semaine dernière, on avait mis en place une procédure de diffusion en direct sur internet, et il y a eu tellement de connexions qu'on a fait sauter le serveur de la ville, donc les 370 premiers ont pu se connecter sans difficulté, et puis les autres, ma foi, c'était un peu haché. Ils avaient plutôt la diffusion avec juste les voyelles. On a eu depuis le prestataire de la diffusion qui nous a bien tout remonté tout ça, qui nous a fait une belle vidéo qui est disponible maintenant sur la chaîne YouTube de la ville. Voilà, j'invite tous ceux qui s'intéressent à la question difficile des personnalités difficiles, justement, à regarder cette émission qui était vraiment passionnante et très, très bien montée par le professeur Vincent Camus.
Voilà, et en plus, il y a, je crois que vous parliez tout à l'heure de quelque chose de très visuel, puisqu'il utilise un schéma de place de parking.
Ah oui, oui, pour synthétiser son propos, il a effectivement figuré un grand parking avec les différentes manières de se garer selon le type de personnalité. Alors c'est évidemment schématique, mais ça met bien les choses en place. Et puis surtout, juste après ce schéma, il présente toutes les manières de réagir du mieux possible, pas nécessairement de bien réagir, parce qu'on n'y arrive jamais totalement bien, encore une fois, mais de réagir le mieux possible quand on est en situation avec une personne difficile.
Alors, que va-t-il se passer pour les prochains Jeudis de la Santé? Est-ce que vous allez affréter une salle plus grande? Est-ce que vous allez, vous déplacer salle Télème, par exemple? C'est pas très loin.
Oui, mais je suis pas sûr qu'il y ait 750 places dans la salle Télème, je sais pas.
Je sais pas.
Je connais pas la jauge. Mais
même,
quoi qu'il en soit, un des principes de ces Jeudis, c'était de se dire qu'il fallait que ce soit toujours le même jour de la semaine, au même horaire, au même endroit. Pour des raisons évidentes, hein, au départ. Alors, est-ce que dans l'avenir, on sera toujours là? Je sais pas. Maintenant, est-ce qu'on mettra toujours 750 personnes dans la grande salle, plus la salle des mariages qui était ouverte à chaque fois? C'est possible que non, en réalité, surtout si à l'avenir on développe le système de diffusion vidéo. Le prochain, c'est sur les accidents vasculaires cérébraux. Il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'il y aura un peu moins de monde qui se sentira concerné. Le suivant est sur la vue. Hein, on en reparlera là, par contre. Voilà, donc non, pour l'instant, on reste dans la grande salle. Et de toute façon, à Tours, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de salles qui dépassent les 750 personnes possibles.
Ah, vous allez pouvoir porter une réclamation à la mairie de Tours, alors.
J'y suis, je ne vais pas me réclamer à moi-même.
Ah bah, je sais pas, peut-être.
Non, mais on y réfléchit. Mais par exemple, le Grand Théâtre, il y a une jauge un petit peu supérieure, mais c'est très compliqué parce que l'accès n'en est pas évident. Voilà. Et puis après, les autres salles dépendent du Vinci et ça a un coût. Aujourd'hui, ces conférences ont un coût qui est proche de zéro. Mmh. Donc voilà, c'est un service rendu à la population qui a un coût extrêmement modeste, puisque c'est voilà, les coûts de fonctionnement normaux de la ville, quelques coûts de communication bien sûr. Et puis, ce que je tiens à souligner, c'est qu'il y a une interprétation en langue des signes qui, elle, est prise en charge par notre partenaire de la Mutualité française.
Voilà, donc, chers auditeurs, écoutez. Prochain jeudi de la santé, 14 mars 2019, l'accident vasculaire cérébral, comment l'éviter? Le 25 avril, prendre soin de sa vue en vieillissant. Et le 6 juin, le don d'organes, où en est-on? Voilà, sur ce, je propose de faire une seconde pause musicale et nous allons écouter, eh bien, si je retrouve le son, voilà, nous allons écouter Balaké Sissoko. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour. Radio Campus Tour, vous écoutez même Sortez, et cette émission touche à sa fin. Notre invité aujourd'hui était Édouard de Germay, adjoint à la mairie de Tours. Voilà, vous êtes en charge des questions de santé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et peut-être, avant que cette émission se termine, est-ce que vous auriez quelques bons conseils à prodiguer à nos auditeurs étudiants ? Qu'est-ce qui est important dans une santé, une vie étudiante ? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, leur recommander ?
Pour leur santé ou en manière générale ? Pour leur bien-être ?
Voilà, pour leur santé, leur bien-être.
L'équilibre est à rechercher. Alors, c'est toute la difficulté aussi de cette période-là, sans condescendance bien sûr, mais j'ai été étudiant en première année de médecine. Je veux dire que la première année, ça a été un genre de grande libération, parce que je partais de la maison, c'était enfin libre, même si j'étais très bien chez moi, hein, mais voilà, une découverte avec un espèce de grand trou d'air, peu de cadre, moi qui avais été arrivé au bac en me disant bon bah voilà, c'est ok, j'ai eu mon bac, d'accord, et quoi d'autre. Et puis derrière ça, bah, il a fallu s'y mettre la deuxième année, et ça a été assez violent en fait, hein. Enfin la deuxième première année. Ça a été assez violent et l'écart a était tellement considérable que effectivement j'ai fini l'année à 49 kilos. Voilà, ce qui est d'accord, je suis pas très grand, hein, mais n'empêche, 49 kilos quand on fait 1m70, c'est un peu juste. Et la réalité des choses, c'est que j'ai mis tout l'été à m'en remettre. Voilà, donc oui, bosser dur, bah, parce que c'est une période où il faut bosser dur la plupart du temps. Mais ça n'empêche pas à côté de ça que si on veut être performant, eh ben, il faut savoir ménager la monture. Et dans les manières de ménager la monture, eh ben, il y a un peu d'activité physique, ça vous l'avez tous en tête. C'est pas beaucoup, mais c'est une demi-heure de marche rapide. Déjà, c'est une bonne activité physique dans la journée. Après, je pense qu'il faut aussi un truc un petit peu plus défoulant. Donc si vous avez un sport un peu plus calorifage, en quelque sorte, eh ben, surtout n'hésitez pas. Et puis, la vie étudiante, c'est pas que bosser et faire un peu de sport, c'est aussi faire la fête. Alors, voilà, c'est pas moi qui vais vous dire de pas faire la fête, au contraire, il y a des moments où c'est absolument indispensable. C'est souvent un peu borné d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, ça fait du bien. Il faut pouvoir s'aérer. Et puis quand on s'aère, il faut faire juste, comme d'hab, hein, faut faire un peu gaffe à pas mettre trop d'air dans le crâne non plus. Et ça passe avec des attitudes de consommation raisonnables. Mais tous ces trucs-là, vous les connaissez par cœur, en réalité. La plus difficile, c'est de s'y mettre.
Mais la pédagogie, c'est aussi la répétition.
Oui, ouais, sans aucun doute.
Voilà, bien, je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir.
D'en sortir. Voilà, je rappelle encore une fois que les jeudis de la santé, voilà, on retrouvera les informations sur le site de la mairie, bien sûr. Et voilà, sur la chaîne YouTube, on pourra aussi regarder les conférences passées. Merci encore et bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Bonne soirée à tous à l'écoute de nos excellents programmes.